cours de philosophie politique par le père Philippe à Saint-Jodat, le 28 janvier 1986.
Nous avions commencé à regarder la philosophie de la famille au point de vue fondement de ce que représente le point de vue politique. Et j'avais précisé, je crois que c'est important de le faire, que la famille repose de fait sur un amour d'amitié qui a cette forme particulière que cet amour d'amitié implique une complémentarité dans l'ordre biologique en vue de la fécondité et une complémentarité humaine. Alors, c'est toujours la même question. Quelle est la finalité propre de la famille au plan philosophique? Je crois qu'il faut toujours bien comprendre que l'amour d'amitié est la fin propre, immédiate de l'homme. Donc, rien au point de vue humain, est au-dessus de l'amour d'amitié. La seule chose qui peut être au-delà de l'amour d'amitié, c'est l'adoration et la contemplation. Et l'amour d'amitié peut être seulement dépassé par le point de vue de l'adoration et de la contemplation. De sorte que le point de vue de la fécondité est l'enfant. Donc tout le problème de la procréation ne peut pas être supérieur à l'amour d'amitié. Il est une fin et fait. Donc c'est un résultat d'un amour et d'un amour parfait qui implique la fécondité. De sorte que dire que la famille est ordonnée et finalisée par l'enfant, c'est vrai, finis effectus, c'est la fin et fait. Mais il faut tout de suite préciser que c'est une fin résultat qui est commandée par une fin plus personnelle qu'est l'amour d'amitié. On a beaucoup discuté là-dessus au point de vue théologique. Je ne parle pas ici au point de vue théologique, je parle au point de vue proprement philosophique. Je crois que c'est très important, comme toujours, d'avoir une certaine vision philosophique pour mieux comprendre le problème théologique. Ce qui est sûr au point de vue philosophique, ça me semble net. La survie de l'espèce ne peut pas être la première finalité. C'est la première finalité au niveau biologique. Alors là, oui, la finalité au niveau biologique, c'est la procréation. Et ceci est vrai de l'homme et de toute nature vivante. Et donc vrai de l'homme et de l'animal. La finalité de l'espèce chien, c'est la survie. Aussi pour le rossignol. Ça ne change pas. On ne va pas dire pour le rossignol, c'est le champ. Non. Le champ est ordonné à la génération. Pour le rossignol, parce qu'il ne chante pas pour vos beaux yeux, ou vos belles oreilles, n'est-ce pas? C'est, on le sait maintenant, et de plus en plus, cette chose très très curieuse, ce qui entoure la génération, peut-être pour les abeilles par exemple, une danse extraordinaire, c'est la fête, au niveau proprement animal. biologique, parce que ça finalise le point de vue de l'espèce animale. Donc, l'homme, en tant qu'il est le vivant biologiquement le plus parfait, est finalisé par la survie de l'espèce. Ça, c'est sûr. Mais en tant qu'il est une personne, et pas seulement une nature, en tant qu'il est une personne, est finalisé par l'amour d'amitié. Et c'est pour ça qu'on peut affirmer les deux. Il faut toujours faire grande attention. Quand on affirme l'un, ne pas l'affirmer d'une manière dialectique, en opposition. Enfin, cette opposition qu'on fait si facilement entre nature et personne. Faire cette opposition entre nature et personne est une fausse opposition. C'est une opposition dialectique qui est fausse. La personne ne peut pas s'opposer à la nature, mais la personne donne à la nature une dignité unique. C'est la dignité de l'esprit à l'intérieur de la nature du vivant. Et c'est l'esprit qui donne justement ce dépassement à l'égard de la procréation. L'animal ne peut pas dépasser la procréation. La génération. Donc l'animal ne peut pas s'exempter de la génération. L'homme le peut pour un but contemplatif. Il le peut parce qu'il y a l'esprit. Et c'est l'esprit qui lui permet ce dépassement. Et c'est dans la mesure même où il vit une vie de l'intelligence contemplative et de l'amour contemplatif, qu'il est au-delà. Mais déjà, le premier dépassement de la procréation, c'est l'amour d'amitié. Ce qui fait que s'il y a une stérilité dans le foyer, la finalité première du foyer demeure. Évidemment, du côté nature, il y a quelque chose qui manque, et que du côté de l'amitié, ce sera plus difficile à vivre parce qu'il n'y aura pas le fruit commun de l'amour. Et quand il n'y a pas un fruit commun de l'amour, l'amour risque toujours de ne pas être assez fort, de ne pas s'incarner avec suffisamment force. Alors il faudra remplacer le fruit commun par des œuvres communes et arriver à faire quelque chose ensemble. Autrement, le foyer ne peut pas durer. Parce que tout amour d'amitié, pour pouvoir durer, réclame une œuvre en commun, une coopération. Ça, c'est autre chose. Ce sont des considérations particulière. Une très grave question qui se pose au point de vue philosophique, c'est de savoir si l'amour d'amitié qui unit l'époux et l'épouse demande la fidélité pour toute la vie. Ou est-ce que l'indissolubilité du mariage est quelque chose de propre au sacrement? Il faut au moins se poser la question. Du côté sacrement, on sait qu'il y a une indissolubilité. Alors, est-ce que l'indissolubilité du mariage par le sacrement est-il quelque chose d'héroïque, réclamé par l'Église, un au-delà de la nature, ou est-il pleinement naturel, poussé jusqu'au bout de la nature? Oui, c'est pour ça que c'est intéressant. Comme question et comme réponse par le fait même. L'amour d'amitié qui regarde la personne regarde donc un bien spirituel absolu. Ce n'est pas un bien sensible, relatif. c'est un bien capable de finaliser une autre personne. Si c'est un bien spirituel capable de finaliser une autre personne, cet amour d'amitié a donc quelque chose qui est au-delà du temps. Ça, je crois que c'est facile à le comprendre. L'amour d'amitié est conditionné par le temps et le lieu, c'est bien évident. On s'est rencontrés sous le figuier. C'est conditionné par cela. On s'est rencontrés à tel endroit, à tel moment. Ça fait partie. Jacob rencontre Rachel au puits. Après lui avoir dit, donne-moi à boire. Le mot de passe. Donc, l'amour humain, même quand il est très spirituel, est toujours conditionné par le temps et le lieu. Parce qu'il s'incarne. Mais il a en lui quelque chose qui est au-delà du temps et du lieu. C'est pas parce que je t'ai rencontré au puits que je t'aime. Parce que j'en ai rencontré beaucoup au puits que je n'ai pas aimé. C'est pas parce que je t'ai rencontré sous le figuier que je t'aime. L'amour d'amitié est au-delà du temps et du lieu, en lui-même. Il a donc quelque chose qui est incorruptible. Et c'est en ce sens-là que l'amour d'amitié réclame la fidélité. Je ne peux pas dire à quelqu'un « je t'aime comme ami, je t'aime aujourd'hui. » Demain, on verra. On ne peut pas dire ça. Quand on dit ça, ça prouve qu'on aime au niveau passionnel. Pas plus. Ça n'a pas dépassé le niveau de la passion. La passion, elle est comme ça. Elle change selon les orages, selon l'atmosphère. Elle change tous les jours. La passion d'aujourd'hui n'est pas la même passion que demain et d'avant-hier. C'est différent. Au niveau passionnel, je suis entièrement lié à un bien sensible qui, lui, est relatif. Tandis que l'amour d'amitié qui porte sur la personne, je prends l'amour d'amitié au sens fort, qui porte sur la personne qu'on aime pour elle-même. Parce que si je l'aime pour la jouissance, c'est donc la passion qui l'emporte. Si je l'aime pour l'utilité, c'est encore l'efficacité et donc le temps qui l'emporte. Tandis que si j'aime quelqu'un pour lui-même, dans sa propre personne, alors je suis au-delà du temps. Il est incorruptible. Et parce qu'il est incorruptible, il réclame la fidélité. Donc, l'amour d'amitié qui fonde la famille, est au plan philosophique au-delà du temps. Je ne peux pas dire on va s'aimer tant qu'il y aura des enfants, tant qu'il y aura l'éducation de ses enfants, puis après on reprendra sa liberté. Vous savez, ça arrive de temps en temps. On a maintenu sa fidélité jusqu'au moment où tous les enfants étaient casés. Après, ça n'a plus d'importance. Jusque-là, on l'a maintenu à cause du mariage. Ça aurait été quelque chose qui aurait donné un mauvais effet. Alors, on a maintenu sa fidélité. Jusque-là, je rencontrais plus d'une fois des personnes qui m'ont dit ça. Ça a peut-être été très héroïque, hein, je ne le juge pas. Parce qu'elles avaient envie de se séparer bien avant. Et à cause de l'amour des enfants, elles sont restées. Puis quand le dernier est marié, ou la dernière, immédiatement après, on se sépare. Vous voyez, l'inverse du voyage de noces. On se sépare parce que on juge qu'il vaut mieux. Alors, ça, vous voyez, ce n'est pas la fidélité dans l'ordre de l'amitié. C'est comme si le mariage était finalisé par l'enfant. Si le mariage était finalisé par l'enfant, alors, très bien, quand les enfants sont casés, on est libre. Mais ça va très loin de dire que le mariage est finalisé par l'enfant ou finalisé par l'amour d'amitié. L'amour d'amitié dépasse les enfants. Il n'est pas mesuré par les enfants et l'éducation des enfants. Et donc, si je dis que l'amour d'amitié finalise la famille, je dois donc dire que cet amour d'amitié demande la fidélité. Je crois qu'il faut dire fidélité au niveau philosophique et indissolubilité au niveau sacrement. Ne dites jamais indissolubilité au point de vue philosophique. Ça n'a pas de sens. L'indissolubilité implique une alliance qui dépasse le mariage, qui est l'alliance du Christ et de l'Église. Tandis que la fidélité, c'est dans le sens de l'amour. L'amour d'amitié réclame une fidélité au-delà du temps et de l'espace. Alors on peut très bien, je parle au plan philosophique, on peut très bien, en raison même, certains moments particulièrement difficiles, crise, dire il vaut mieux se séparer momentanément. C'est très curieux, on sait mieux quand on est loin. Ça arrive, ça. Quand on est loin, on s'aime beaucoup. On pense beaucoup l'un à l'autre. Puis dès qu'on est ensemble, tout de suite, on s'attrape. Nos sensibilités ne vont pas. Tandis que notre cœur profond, très très bien. Ça arrive, c'est un fait, c'est la complexité de l'être humain. Et donc, au plan philosophique, vous comprenez bien, je dirais, mais il faut vous séparer, puis de temps en temps vous revoir. C'est normal, ça. Il y a une fatigue de la sensibilité. C'est de vivre tout le temps ensemble, hein, dans la vie commune. Les pneus s'usent. Alors, si on a des pneus vraiment extraordinaires, ça met beaucoup plus de temps à s'user. On peut rester maintenant 4 ans ensemble, ça va. Mais d'autres qui ont des pneus moins solides, au bout de 6 mois, ça commence déjà un tout petit peu. Au bout d'un an, c'est difficile. Et c'est la définition que donnait le père de Ménas. J'ai fait mon novitiat avec lui, donc j'étais ça pour lui. Il donnait la définition quand le père Bette était absent. La définition de ce que c'était que la vie commune. Deux mains qui se frottent. Quand il fait froid, c'est très agréable, on se réchauffe. Mais quand ça continue, la peau s'use. Alors on est chair sur chair, puis on est os sur os. C'est à ce moment-là où le père Maître est arrivé. Je lui ai dit, alors, qu'est-ce que vous êtes en train de raconter ? Alors, il n'a pas osé le dire. Puis on lui a dit, mais dites-le au père Maître, c'est très bon qu'il sache ce que c'est que la vie commune pour vous. Alors, il a raconté ça au père Maître. Le père Maître ne savait plus très bien quoi dire. La vie commune, c'est ça. On voit très bien. Et c'est vrai, toute vie commune implique une usure de la sensibilité. Alors, si la vie commune est basée uniquement sur la sensibilité, c'est très difficile. Si la vie commune est basée sur quelque chose de beaucoup plus profond, qui est un amour volontaire, on s'aime parce qu'on veut s'aimer, alors à ce moment-là, il n'y a pas de danger. Même si, de fait, la sensibilité est usée, que ça fait chair sur chair et os sur os, on sera suffisamment intelligent pour dire « si tu vas à droite, je vais à gauche ». Et nous continuons de vivre ensemble, avec ce respect mutuel. Puis au bout d'un certain temps, la sensibilité, la peau repousse, peut recommencer. Il faut savoir ces choses-là. Il faut savoir les points de vulnérabilité qu'on a, et les dépasser. Parce que c'est pas un absolu. La vie commune par rapport à l'amour d'amitié. Il ne faut pas que la vie commune tue l'amour d'amitié. L'amour d'amitié est au service. Je veux dire, la vie commune est au service de l'amour d'amitié. Et c'est l'amour d'amitié qui est quelque chose d'intérieur, qui demande de s'incarner. Alors oui, ça demande de s'incarner. Mais quelquefois, on a besoin de prendre un tout petit peu du lest. Ça fait partie de la prudence humaine. Vous voyez, l'amour d'amitié est au-delà de la prudence. Et la vie commune est commandée par la prudence. Et ça, il faut arriver. Philosophiquement, je fais ces distinctions et elles sont très importantes au plan purement philosophique. Ça fait comprendre comment on éviterait des quantités de divorces s'il y avait cette prudence animer la vie commune. Mais au début, on croit que la vie commune et l'amour d'amitié, ça ne fait qu'un. Et on se conduit comme des imbéciles, croyant que la vie commune est un absolu. Mais non, la vie commune n'est pas un absolu. C'est relatif. L'absolu, c'est l'amour d'amitié. Ça, il faut comprendre ça philosophiquement. Pour nous, et puis pour ceux qu'on verra après, qu'on aidera. Et ça, au plan philosophique, c'est assez net. On peut très facilement faire la distinction. Comment voulez-vous que le point de vue de la sensibilité puisse être un absolu? Mais non. La sensibilité, ça change. La sensibilité de 17 ans, de 20 ans, de 40 ans n'est pas la même. Et l'amour d'amitié demande d'être le même. L'amour d'amitié demande de progresser, d'aller toujours. Donc, comprenons bien cela. Comprenons bien que l'amour d'amitié réclame la fidélité. L'amour d'amitié réclame qu'on fasse une œuvre commune. Normalement, dans le mariage, c'est l'enfant. Et l'éducation de l'enfant. Alors là encore, une chose très importante. L'éducation de l'enfant relève des parents, c'est de droit naturel. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de mettre au monde un petit être vivant, il s'agit de mettre au monde une personne humaine. Et il faut éduquer cette personne humaine pour qu'elle soit capable un jour d'aimer. L'éducation familiale est en premier lieu l'éducation du cœur et l'éducation de la volonté. Ça vient au même. Cœur et volonté. En mettant simplement un ordre, il s'agit d'abord d'éduquer le point de vue du cœur et du cœur sensible. C'est la mère. Et du cœur qui implique la volonté, ça c'est le père. Je crois qu'on peut. C'est pas toujours comme ça, mais normalement c'est comme ça. La mère donne la première éducation. Et l'épanouissement du cœur. Donc, c'est vraiment l'éducation maternelle est tout entière tournée vers l'éducation du cœur. Et le Père fait que cet amour devienne pour nous fort et qu'il éduque notre volonté. La force d'efficacité. Est-ce de droit naturel ce que représente le harem? Ce que représente d'avoir plusieurs épouses? Une question très très importante aussi au point de vue philosophique. Est-ce que je puis dire de droit naturel que c'est une erreur? Est-ce que je ne peux pas le dire? C'est quand même important, ça. C'est des questions qui se posent. Est-ce que nécessairement le foyer implique une épouse, la favorite? Ou est-ce que le foyer peut être un foyer selon des styles différents? Et impliquer une multiplicité d'épouses. purement philosophique. Parce qu'il faut bien reconnaître qu'ordinairement, les traditions religieuses commandent cela. Ce sont les traditions religieuses qui permettent ou défendent. Et les traditions religieuses sont très nettes dans ce domaine-là. Il y a des traditions religieuses qui empêchent et d'autres traditions religieuses qui permettent. Et non seulement permettent, mais semblent presque favoriser. Les traditions religieuses en elles-mêmes ne sont pas toujours vraies, parce que ça charrie des quantités de choses. Les traditions religieuses demandent d'être totales, toujours purifiées. Et purifiées par un regard philosophique. Et purifiées quelquefois par un regard de foi. Mais la tradition religieuse en elle-même n'implique pas nécessairement quelque chose qui soit vrai. Je vous ai toujours cité cet exemple qui m'avait beaucoup frappé en Algérie. C'était en mois d'octobre, je crois, septembre. Le soir, voyant toutes ces femmes rentrant après la cueillette des olives. C'était très beau. Esthétiquement, c'était merveilleux. Et certaines portaient des troncs d'arbres, de vieux oliviers. Et un peu plus loin, tous les hommes étaient autour de leur tasse à café. Ils avaient passé toute leur journée auprès de la tasse à café, avec l'homme de prière. Comme j'étais en habit religieux, j'étais donc un homme de prière. Et j'ai posé la question, évidemment, c'était très audacieux, mais c'était tellement un contraste fort que c'était plus fort que moi. J'ai dit, comment se fait-il que les femmes ont travaillé toute la journée et que vous avez toute la journée pris votre café avec évidemment votre fusil à vos pieds. Là, il y a eu un moment de silence. J'ai dit ça à l'homme de prière. Au bout de quelques minutes, il y a eu ce mot extraordinaire, la tradition. C'est extraordinaire, ça. Tradition religieuse, c'est bien évident. Liée à des traditions religieuses. La femme travaille, l'homme doit chasser. L'homme, c'est le fusil, c'est la défense. Et pas le travail. Manuel, cueillir les olives, ou ramener les troncs d'arbres. La tradition, ça vous fait comprendre beaucoup de choses. Parce que ça vous fait comprendre que la tradition religieuse peut charrier des quantités de choses qui ne sont pas du tout justes. Et au nom de la tradition, on continue. On ne les met pas encore. Qu'est-ce qui peut purifier les traditions? Les traditions religieuses. Je crois la sagesse naturelle. La philosophie dans son regard de sagesse. Et évidemment la foi. La foi chrétienne. Parce que justement, quand il s'agit des musulmans, la foi et la tradition sont intimement liées. C'est la faiblesse de ce que représente l'islam. Et c'est une faiblesse tragique aujourd'hui, ils le savent. Dans le christianisme, il y a eu des moments où tradition et foi ont été très très liées. Tradition religieuse, tradition familiale. On a toujours fait ça dans notre famille. Dans notre famille, on a toujours baptisé. Qu'est-ce que c'est que le baptême? Je ne sais pas très bien, mais on l'a toujours fait dans notre famille. On s'est toujours marié à l'église avec le baptême. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas très bien, mais ça ne fait rien, on le fait, puisque c'est de tradition. voyez, la foi peut être comme engloutie dans la tradition religieuse. Et les traditions religieuses sont familiales. Là aussi, c'est très curieux. Les traditions les plus radicales, les plus profondes, c'est les traditions religieuses et familiales. Et la famille est portée par les traditions religieuses. Et les traditions religieuses sont nourries et gardées par la famille. Il y a une espèce de lien. Et ça, je crois que c'est très important au point de vue philosophique de comprendre cela. Cet enracinement de la famille dans les traditions religieuses. Je crois que tout le temps, on voit ça. Ce serait intéressant d'étudier des cas différents au point de vue historique. Je crois qu'on verrait une constante entre justement la tradition familiale et le point de vue justement la tradition religieuse et le point de vue de la famille. Au plan purement philosophique, dans la mesure où on le peut, est-ce que nous pouvons discerner au plan purement philosophique que la famille doit impliquer une seule épouse et que tout le reste provient de traditions religieuses qui sont un peu corrompues? Pour des tas de motifs. Vous voyez, je reviens toujours à l'amour d'amitié. Tous les philosophes se sont posé la question, vaut-il mieux avoir un seul ami ou beaucoup d'amis? Tous. C'est un très beau sujet. Certains n'ont pas répondu. Platon laisse dans le vague. Aristote essaie de répondre. Puisque l'amour d'amitié porte sur un bien absolu, la personne. On voit comment l'amour d'amitié tend vers l'unité. L'unité étant propriété du bien. Un bien aimé avec une très grande intensité demande de capter tout notre cœur. La multiplicité dans l'ordre du bien relativise le bien. Et donc n'est plus regardé comme absolu. De sorte que je crois qu'on peut dire, en s'appuyant sur l'amour d'amitié, si l'amour d'amitié est la finalité du mariage, voyez tout de suite, parce que si la finalité du mariage, c'est la procréation et les enfants, si vous avez beaucoup d'épouses, vous en aurez plus. Et donc, la finalité sera mieux réalisée. C'est bien évident. Si au contraire, vous avez comme finalité l'amour d'amitié, alors c'est juste l'inverse comme raisonnement. Un seul ami, une seule épouse, qui est vraiment considérée comme épouse. Et le respect à l'intérieur de l'amour d'amitié implique justement ce caractère d'unicité. S'il y en a beaucoup, s'il y en a plusieurs, nécessairement, ça relativise. Et donc, l'amitié n'est plus ce qu'elle doit être. Et ceci en raison même du don des corps. Parce qu'il y a un raisonnement analogue, j'ai dit bien analogue, au niveau de l'amitié spirituelle. C'est très vrai qu'on ne peut pas en avoir des quantités d'amis. C'est du reste la très grosse difficulté au plan surnaturel où on doit aimer tous dans la charité fraternelle. Et c'est là où quelquefois on peut dire qu'il y a comme une espèce de rivalité entre la catholicité de la charité fraternelle. Je ne peux rien exclure. Et les exigences de l'amour d'amitié. C'est vrai ça. C'est ce qu'on ressent en vie commune. Quoi. En vie commune, on doit aimer tous ses frères. En vie commune religieuse, on doit aimer tous ses frères, sans exclusivité. Et alors l'amour d'amitié met fatalement des exclusivités. Je t'aime, et il n'y a que toi que j'aime de cette manière-là. Tous les autres peuvent disparaître, ça m'est égal si toi tu restes. C'est le langage qu'on dira toujours et spontanément dans l'ordre de l'amitié. Et c'est vrai dans l'ordre de l'amitié humaine. Or, au point de vue de la charité divine, on ne peut pas dire ça. Je ne peux pas. Puisque je dois tous les aimer dans le Christ. Et le Christ aime tous. Vous voyez, là on touche quelque chose de très particulier à l'amour divin. L'amour divin peut allier la multiplicité et l'intensité. Ça oui. Parce qu'il ne faudrait pas dire qu'avec la charité, on tombe dans le primat de la quantité. Ce serait effrayant. Et donc, avec la charité, le pauvre grec est complètement noyé par celui qui est le croyant. Je tomberai dans la dialectique hegelienne. C'est ce que dit Hegel. Hegel a très bien senti ça. Alors, il l'a senti du côté de l'intelligence, on peut le sentir du côté de l'amour. Alors, il faut bien être attentif que dans l'ordre surnaturel, c'est un amour divin. Cet amour va plus loin que l'amour humain. Il est substantiel. J'aime comme le Christ a aimé. Et donc, il peut s'étendre à tous sans perdre d'intensité. La quantité ne nuit pas à la qualité. Pourquoi? Parce que c'est le Christ qui aime à travers nous. C'est Dieu. Il y a un amour infini. Tandis qu'au niveau humain, je suis bien obligé de reconnaître que si j'en aime des quantités, j'ai un cœur tellement grand que j'aime tout le monde. Vous savez, des gens qui disent ça. J'aime tout le monde. Au bout d'un certain temps, on n'aime plus personne. Au point de vue humain, il y a nécessairement un choix entre la qualité et la quantité. Ça ne peut pas être autrement. Et on ne peut pas prétendre que la qualité et la quantité vont s'unir. Non, pas du tout. C'est très important, vous voyez, pour l'exigence du mariage, pour comprendre l'unicité du mariage. Alors, encore une fois, comprenez bien, c'est une vision de sagesse. Parce qu'on pourra donner des quantités de raisons d'ordre psychologique. Ah, il vaut mieux qu'elles soient plusieurs. Comme ça, elles sont plus relatives. Hein, oui. Mais elles, comme personne humaine, vous la relativisez trop. Parce que c'est facile, c'est plus facile de dominer son épouse quand il y en a 10 que une. Forcément, parce qu'on joue. Alors là, on ne regarde pas la femme comme une personne, comme une personne qu'on doit respecter, et plus on l'aime, plus on la respecte. On la relativise. De sorte que je crois que la monogamie implique le respect plénier de l'amour d'amitié. Et que, nécessairement, la pluralité des épouses provient d'un point de vue utilitaire et efficace, et pas de l'amour. C'est bien ce que dit notre Seigneur, hein, à cause de la dureté de votre cœur. Hein. Il le dit pour autre chose, mais c'est bien ça. Et Jésus revient à un ordre naturel. Et là, l'exigence d'une seule épouse, c'est l'exigence de l'amour. Je crois qu'on peut le dire au plan philosophique. Et si on peut le dire, on doit le dire. Et c'est important d'essayer de comprendre cela. Alors, c'est difficile à bien préciser parce que c'est d'ordre qualitatif. Mais c'est l'un lié à la qualité. L'un est lié toujours à l'acte. Et le multiple est lié à la potentialité. C'est à cause de la potentialité qu'il y a du multiple. Donc, c'est à cause d'un manque d'intensité d'amour qui a la multiplicité. Et quand l'intensité de l'amour va très loin, alors on retrouve l'unité. Oui, ça. sur les quelques problèmes qui sont là sous-jacents à la question de ce que représente ce point de vue de la famille, qui montre que les traditions religieuses doivent être purifiées par un jugement de sagesse par rapport aux exigences de l'amour d'amitié. Si l'amour d'amitié finalise la famille, on doit aller jusque-là. Et on est obligé d'aller jusque-là. Alors, il faudrait encore, parce que c'est important aujourd'hui, je vous affirme que ce sont tous ces problèmes qu'on doit voir aujourd'hui avec beaucoup de netteté, parce qu'on est devant une désagrégation de la famille. Et une désagrégation complète de la famille. Je voyais encore lundi, quelqu'un qui m'avait demandé de me voir, que je ne connaissais pas du tout. Il y avait des amis communs tout le temps. Il y a des relations communes, mais je ne connaissais pas. Cette personne m'a dit ce qu'elle vivait depuis 10 ans, avec son mari qui l'a quitté. Elle a 3 enfants, 3 filles, une seule vie, un mariage normal, chrétien. Et les 2 autres, ayant reçu une éducation parfaite. Et il vous pose des questions. Qu'est-ce qu'on peut faire? Or, si vous restez uniquement au niveau de la foi, vous ne voyez pas ce que vous pouvez faire. Vous devez réfléchir au niveau psychologique, mais ce n'est pas suffisant. Il faut une philosophie de la famille. Aujourd'hui, je crois que c'est capital, une philosophie de la famille. Alors, il faut se demander, vous voyez, ce sera ce qu'on essaiera la fois prochaine. Et n'hésitez pas, s'il y a des questions que vous posez vous-même, de les poser. C'est facile. Pour qu'on puisse bien regarder cette philosophie de la famille qu'on doit regarder jusqu'au bout. Vous voyez, ce serait toutes les questions de la morale familiale. Jusqu'où pouvons-nous philosophiquement regarder ces questions-là? Ou est-ce qu'on doit dire, ça c'est la foi? Vous voyez ce qu'on disait tout, au réfectoire tout à l'heure, saint Thomas à discerner parfaitement le domaine de l'intelligence, de la raison et le domaine de la foi. Aujourd'hui, nous devons, si nous sommes vraiment formés par saint Thomas, formés par une philosophie réaliste, comprendre jusqu'où on peut pousser une philosophie de la famille. Et bien discerner ce qui est d'ordre de la foi et ce qui n'est pas d'ordre de la foi. Parce que vous vous trouverez devant des médecins, je prends l'exemple parce que ça m'est arrivé plusieurs fois, qui eux auront leur théorie et diront « Surtout mon père, ne me parlez pas de la foi et de la doctrine de l'Église. Parce qu'il n'y a rien de tel pour me faire envie de quitter l'Église. Parlez-moi au point de vue philosophique. Et dites-moi si philosophiquement on peut dire telle ou telle chose. Alors ça c'est important.